Vous écoutez
RMC. RMC, le ring des GG.
C'est parti pour Jonas Vingegaard. On se croirait dans une étape de montagne, dans ce contre-la-montre par équipe, contre-la-montre individuelle désormais. Une minute pour terminer, pour passer la ligne pour Jonas Vingegaard. Le double vainqueur du Tour de France est peut-être en train de taper un grand coup lors de cette première étape. Et voilà, il passe la ligne avec 8 secondes d'avance. Jonas Vingegaard, 7 secondes, 33 centièmes. El campeón, Seiyama Vingegaard. Mais il reste un garçon en piste. Tadej Pogacar. C'est parti pour Tadej Pogacar qui accélère et Isaac Del Toro qui ne va pas réussir à suivre la fusée. Tadej Pogacar, la fusée slovène est partie. C'est parti pour Tadej Pogacar. 500 mètres encore à parcourir. À mon avis, il va être derrière Vingegaard. Hein, 30 secondes.
Mais 30 secondes, 500 mètres, c'est pas possible. Hein.
Et oui, voilà.
Non, il sera derrière. Il sera battu, Poggi.
Le temps qui s'égrène, Tadej Pogacar ne sera pas maillot jaune. Aujourd'hui, il va être obligé de laisser la place à Jonas Vingegaard. 11 secondes et 28 centièmes pour Tadej Pogacar, 3e.
C'est le premier enseignement de cette étape. Vingegaard est là, et bien là.
Oui, mais la bonne affaire est pour qui au final? Est-ce qu'elle est vraiment pour Jonas Vingegaard ou est-ce qu'elle est pour Tadej Pogacar qui est qu'à 11 secondes sans le maillot jaune?
Il n'y a pas de contre-performance des uns ou des autres, mais il y en a un qui a pris un incident psychologique léger sur l'autre, qui a gagné, qui sera en maillot jaune demain matin, ce sera Vingegaard, ce ne sera pas Tadej Pogacar. Le match est lancé.
Le match est lancé, nous a dit Jérôme Pinot hier. Visma Lizobike a donc été l'équipe la plus rapide sur les 18 km dans Barcelone. Et Jonas Vingegaard, la plus belle fusée au sommet de la colline de Montjuïc. Le Danois est en jaune pour la première fois depuis 3 ans, avec 8 secondes d'avance sur Filippo Ganna au général et 12 sur son grand rival Tadej Pogacar. Vingegaard, récent vainqueur du Giro, est en forme comme il l'avait annoncé au début de son deuxième grand tour de la saison. Les GG, je vous pose cette question. Est-ce que Vingegaard envoie un vrai message à Pogacar? Alors j'ai un oui, celui de Pascal Duprat, et j'ai deux noms. Allez, il va falloir que tu sois puissant, hein, Pascal, hein, je te préviens. Ceux de Jérôme et de Marc sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Vous dites plutôt non à 74%. Vous pensez, vous avez du mal à voir quand même la domination de Pogacar vraiment être mise à mal. On va en débattre dans un instant. Mais d'abord, Maria Azé, elle aussi était sur le chrono tortueux hier sur la moto RMC pour nous faire vivre ça. Salut Maria.
Salut Georges, salut tout le monde.
Bon Maria, comment Vingegaard et ses adversaires ont parlé de ce premier coup de force, on va l'appeler comme ça, de ce Tour de France?
Bah, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à voir un grand favori en jaune dès le premier jour, mais Jonas Vingegaard clairement assume son statut. Hein. Il avait annoncé avant le début du Tour de France qu'il était dans la forme de sa vie et il ne s'est pas caché sur ce contre-la-montre par équipe, ce qu'on peut parfois lui reprocher. C'est la première fois que le Danois revêtit le maillot jaune depuis le 23 juillet 2023, donc forcément, il était très heureux à l'arrivée.
C'est vraiment incroyable. Pour moi, c'est un rêve que j'ai depuis 2023 et ce n'est que la première étape. Mais oui, même si ce n'est que pour peu de temps, je vais apprécier porter le maillot jaune. Bien sûr, les écarts sont minimes, mais notre objectif est d'essayer d'arriver à Paris avec le maillot jaune.
Alors ce coup de force montre aussi la densité de la formation Visma Lizobike sur ce Tour de France, avec notamment un Davide Piganzoli et un Matteo Jorgensen impressionnant hier. Un début de tour parfait pour le français de l'équipe Bruno Armirail.
Ouais, c'est cool, c'est une victoire d'équipe. Et puis Jonas prend le maillot, donc c'est sûr que c'est un tour qui démarre idéalement. Après, on est confiant, voilà, on sait que Jonas il marche fort. Vaut mieux avoir de l'avance que du retard.
Jonas Vingegaard compte désormais 12 secondes d'avance sur Tadej Pogacar après cette première étape, mais pas de quoi inquiéter le Slovène à l'arrivée, qui a quand même dû passer par le protocole pour son maillot de meilleur grimpeur.
Non,
j'en suis vraiment content. J'ai fait une super performance et ça m'a vraiment motivé pour les jours à venir.
Reste à savoir combien de temps Jonas Vingegaard va réussir à conserver son maillot jaune. L'étape du jour entre Tarragone et Barcelone s'annonce très piégeuse avec, tu le disais Georges, une triple ascension de la côte de Montjuïc.
Exactement, ça promet aujourd'hui, ça a peut-être dynamité dans le circuit final ici à Barcelone. On se pose donc cette question, est-ce que Vingegaard envoie un vrai message à Pogacar? Tiens, avant de vous écouter les cyclistes, j'ai envie d'écouter Pascal, d'avoir le regard de Pascal là-dessus. Pourquoi est-ce que tu l'as traduit comme ça, toi, avec
parce
ton
que hier, j'ai bien
grand public?
Hier, tu m'as donné le loisir de bien écouter les spécialistes sur le sujet, donc que sont Marc et les deux Jérôme. Je vais ajouter Christophe Cessieux également hier, parce que vous étiez tous unanimes pour me dire, pour nous dire, alors le week-end n'est pas terminé, j'ai entendu ce que vous avez dit, que normalement, eh bien Pogacar devait marquer son territoire tel un tigre au travers de ces deux étapes. Donc j'attends la deuxième, mais toujours est-il que jamais, et pardon messieurs, je connais votre expertise, vous êtes peut-être dans le cyclisme des super grands tacticiens, mais jamais une seule fois vous m'avez dit hier que Vingegaard pouvait en prendre le maillot jaune et après bam. Cette première étape. Donc moi je vois juste une chose, c'est que Vingegaard et son équipe, eh bien ils montrent après cette première étape qu'ils sont là, et bien là, ce que l'on pressentait après le Tour d'Italie de Vingegaard. Donc Vingegaard est en forme, et ça c'est un premier enseignement, et je pense que ce message là il l'envoie à Pogacar. Pogacar dit, parce que je crois que la dernière bosse c'est Pogacar qui fait le meilleur chrono, c'est ça, vous m'arrêtez
c'est
si je me trompe,
c'est ça, ouais.
Donc il est bien sûr dans son rôle,
donc il n'y a pas de message.
Si, il y a un message. Vingegaard est en grande forme et il faut
Pogacar a été plus vite.
Pogacar ne pourra pas faire l'économie. Il va falloir qu'il soit à son meilleur niveau emploi pour mettre Vingegaard en difficulté. Réponse. Non, mais on n'aura pas de grande gueule demain. Apparemment, puisque c'est lundi, mais moi j'attends avec impatience, et j'espère que on va pouvoir ensemble se parler par WhatsApp interposé pour savoir si, parce que pour l'instant, Marc et Jérôme, pour l'instant, hier j'étais complètement convaincu, mais là je suis à demi rassuré. C'est vrai que j'espère que le Tour de France sera sensationnel et que au vélo, comme partout, dans n'importe quel sport, rien n'est écrit par avance. Voilà, voilà mes arguments.
Non mais c'est vrai, il a été il lâche rien. Mais il a été très convaincant pour le coup. Non mais c'est vrai que tout le monde n'aurait pas parié sur Vingegaard en jaune avec cette avance là dès la première journée, Marc.
Oui, mais quand on regarde les temps d'ascension, parce qu'en fait, le chrono d'hier, il y a une large partie qui est réservée aux équipiers, aux armirails et autres coureurs qui ont fait la partie plate. Ce qui est intéressant à observer, c'est le temps de montée effectué par les principaux leaders. Et sur ce pointage-là, c'est Pogacar qui monte le plus vite. Donc oui, il y a ces 7 secondes qui sont au bénéfice de Vingegaard, et pour la nature du spectacle et pour l'intérêt de la course, c'est sympa, c'est intéressant.
Et pour la force de son équipe aussi.
Et pour la force de son équipe, c'est intéressant.
C'est une force collective qui est montrée, hein.
Néanmoins, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose hier. Je pense que l'arrivée d'aujourd'hui va être peut-être plus explicite. Si tant est qu'il y ait une arrivée massive du peloton sur les derniers kilomètres.
Enfin, on n'a pas vu grand-chose, mais si Vingegaard avait ce matin 20 secondes de retard sur Pogacar, on dirait déjà, il va pas y avoir de suspense. Là, c'est l'inverse.
Donc, merci,
Jérôme. Bah oui, tu sais que je suis là pour t'aider.
Hein. Là où Pascal a raison, et moi le premier, j'avais pas du tout mis Vingegaard et son équipe favori hier. Ni UAE pour le coup, pour moi c'était Net Company, Neos,
oui,
les grands favoris. Voilà, ils ont eu les faits de course qui se sont passés. Maintenant, c'est pas les 12 secondes que Vingegaard a pris sur Pogacar qui vont faire la différence, et surtout il reste encore 3300 km. Donc on va pas se faire une idée, on va pas dire après 19 km que Vingegaard est plus fort et a tapé du poing sur la table, etc. Ce qui montre, c'est comme on le connaît depuis le début, c'est qu'au Tour de France, il est toujours prêt avec un Giro avant ou pas.
Eh oui, mais là, il a fait un Giro avant, donc ouais, effectivement.
Mais justement,
il pouvait y avoir une part d'inconnu.
Oui,
mais c'est la conséquence de son équipe.
Voilà,
la performance de
tout à fait.
Vingegaard, c'est la conséquence de son équipe.
Ce que Marc a bien dit, c'est que la première partie était pour les équipiers. Si tu prends les deux formations, si tu prends dans la formation de Vingegaard, Affini, très bon rouleur, Armirail, ancien champion de France, Campanert, ancien champion de Belgique de chrono, tu rajoutes Jorgensen. Ils ont quand même énormément de rouleurs qui ne l'ont pas chez UAE, même s'ils ont des polites, etc., qui roulent bien, c'est quand même pas le même calibre. Donc c'est vraiment son équipe qui a réussi à faire gagner Vingegaard au final. Parce que le format est aussi différent.
Bien
si
sûr.
C'était
alors,
l'ancien format, il n'aurait peut-être pas gagné.
Accordez-moi, messieurs, la réflexion suivante. Donc, pour le moins, le suspense reste entier. Voilà.
Ah, mais heureusement, d'ailleurs.
On a fait 15 kilomètres. Je pensais que le suspense allait être tout d'un coup,
banni.
Donc, j'attends cet après-midi. Et franchement, je bois vos paroles.
On s'est peut-être mal exprimé.
Moi, non, pas du tout. Je ne sais pas vous manquer de respect. Attention.
Non, pas du tout.
Je suis d'accord.
Moi, je le prends comme ça.
On débat,
Pascal.
Non, on débat, hein, Marc.
Oui, évidemment. Non, moi, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est le petit bloc de 4-5 jours là, qui arrive, entre hier et les 2-3 étapes qui arrivent.
On va arriver rapidement dans
les premières années. Hein. Et c'est là où on va sentir l'impact. L'impact que va mettre Pogacar. Et pour moi, l'objectif de Pogacar, il est simple. C'est de, à la sortie de cette portion de course sur 3-4 étapes, c'est d'avoir, de prendre l'ascendant psychologique sur le reste des favoris. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Alors il y aura 3 secondes, il y aura 5 secondes, il y aura 10 secondes ou 15 secondes. Mais l'objectif de Pogacar, c'est de déjà mettre sous pression la concurrence et de bien faire comprendre que c'est toujours lui le taulier.
Et si d'aventure que... c'était pas le cas, Marc. Moi c'est ça la question.
Si c'est pas le cas, on rentre dans une autre phase de course qui va peut-être un petit D'accord. peu chagriner Pogacar, qui va exciter Vingegaard et le stimuler. Mmh. Et puis il y a les quelques autres coureurs qu'on a autour, les Van der Poel, les Sexas et autres, qui ont forcément un rôle à jouer dans tout cela.
J'ai une deuxième question, en fait, parce que, comme tu le sais, j'adore le vélo. Je n'ai pas, bien sûr, votre expertise. Mais comment ça se fait que Nyspolit, hier, il a du mal à suivre. Il était malade?
Non, mais en fait...
Coéquipier de Pogacar.
Non. Ouais. Faut pas se fier aux apparences de ce qu'on a pu apercevoir hier sur les écrans de télévision. Ça a été un peu trompeur. En fait, dans chaque équipe, par rapport au chrono qu'il y avait à effectuer hier, il y avait une répartition des tâches qui était différente suivant les qualités des coureurs qu'on a dans chaque équipe. Et Polite était, à mon avis, en très grande forme, sauf qu'on l'a utilisé sur une portion de course là où il pouvait être le plus efficace. Alors, c'est sûr que quand tu regardes les images comme ça, tu dis, oh, Polite, il est déjà lâché. Non, il n'est pas déjà lâché. C'est parce qu'il a
Il a fait son taf.
Il a fait son taf avant. C'est pour ça qu'on l'a D'accord. utilisé là où il est le meilleur. Et donc, après, il a laissé de la place à ses autres coéquipiers. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Polite était dans une mauvaise journée, absolument pas.
Moi, je vous dis quand même, je trouve que ce qu'on a vu hier confirme en tout cas que Vingegaard, il reste dans une dynamique positive sur sa saison. Il a eu aucun raté. On l'a pas vu depuis le Giro.
Il a quand même gagné deux fois le Tour de France.
Ah non, bien sûr. Oui, mais là,
jusqu'à preuve du contraire, c'est le deuxième meilleur coureur du monde sur les grands tours.
Il arrive avec toutes ses armes.
Toutes ses armes est bien différente des autres années.
Il est parti sur un autre schéma.
Sa saison est déjà gagnée. Il a gagné le Giro. Donc haute préparation, il passe par le Giro, il l'a gagné. Sa saison est déjà gagnée. Il le dit lui-même dans les interviews d'avant-course. Il dit, physiquement, je me sens très bien et j'ai retrouvé le sourire. Bah, quand t'as un coureur de ce calibre-là.
Il n'a pas oublié qu'il avait eu une chute importante il y a deux ans.
Autour du Pays-Bas.
Je pense qu'il il a traîné les séquelles pendant plus longtemps qu'on ne le suppose.
Tout à fait. Et quand un coureur comme lui, plutôt fermé, des fois on a l'impression un peu triste. Alors, c'est pas du tout ça. C'est peut-être parce qu'il est scandinave. C'est un super mec, Jonas Vingegaard. J'adore ce coureur.
Mais quand tu le croises à l'hôtel, il est très sympa. Toujours un petit mot.
Et quand lui te dit, j'arrive avec le sourire. Non. Quand il te dit, j'arrive avec le sourire, je suis confiant et que son équipe marche bien, ben là, ça nous donne des espoirs, bien sûr.
Vingegaard envoie-t-il un vrai message à Pogacar? Et on a Kevin qui nous appelle au 32-16 et qui nous appelle de Loire-Atlantique. Salut Kevin.
Salut Georges, salut Kangal.
Bon, comment t'as vécu ce chrono hier? Vingegaard en jaune pour la première fois depuis 3 ans, qui a déjà 12 secondes pardon, d'avance sur Tadej Pogacar. C'est un message pour toi?
Eh ben écoute, déjà moi je veux dire que j'ai adoré le format parce que hier dans l'after tour là, on était j'entendais les deux Jérôme qui étaient je sais qu'on n'est pas d'accord, j'ai entendu hier, mais en tant que spectateur, moi j'ai bien aimé ce format là et je me dis que même si on avait eu une bosse dès le début, ça aurait posé d'autres problèmes tactiques aux équipes et moi je trouvais ça intéressant. Maintenant le message d'hier, pour moi, il est plus envoyé par l'équipe Visma que par Vingegaard lui-même. Parce qu'on voit qu'ils font à peu près jeu égal finalement sur la montée. Vingegaard, il a dit, OK, je suis là, je suis au niveau et je suis prêt à répondre. Et pour moi, par contre, l'équipe a été solide et envoie un message à Pogacar, parce qu'il va y avoir bien sûr les étapes de montagne, mais il y a plein d'étapes de transition, des étapes pièges. Et le message qui a été envoyé, c'est qu'écoute Pogacar, si à un moment donné, t'as un petit pépin, un petit souci, c'est toute une équipe pour appuyer, on sera là pour appuyer là où ça fait mal. Et aller prendre peut-être quelques secondes et voire des minutes sur des endroits où on n'attend pas. En 1-1, je pense qu'il n'y a pas de débat, Pogacar reste le plus fort. Par contre, il y a une équipe qui est pas mal. Juste pour finir, Georges, si je peux faire un tout petit instant promo, parce que j'en avais parlé déjà, mon podcast Planet Sport Junior commence à grandir petit à petit. Et donc demain matin, il y a un épisode qui sort et on fait notamment un zoom sur Lenny Martinez avec sa quête du maillot à poids. Donc si vous avez des enfants qui sont passionnés de sport, c'est sur toutes les plateformes Planet Sport Junior. Voilà.
Vous avez vu, on a les auditeurs qui sont des professionnels qui ont même leurs propres émissions. Kevin, à suivre le Tour de France. L'intégral Tour, il vous appartient à tous et vous pouvez tous participer. Merci Kevin d'avoir été avec nous au 32-16. Les gars, aujourd'hui, Tarragone-Barcelone, on l'a dit, avec un circuit autour de Montjuïc, on va monter plusieurs fois cette bosse qui est très difficile. Pogacar avec un petit débord d'une dizaine de secondes sur Vingegaard. Est-ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui à ce que les favoris se mettre sur la gueule voilà, pour y aller directement.
Si on arrive groupé à Barcelone, oui, ça va forcément y avoir match. Après, c'est quand même une étape particulière. On est sur le bord de mer, on va souvent être dans des agglomérations. Ça va être nerveux. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de tensions dans le peloton, et ce, dès les premiers kilomètres. Après, tout dépend comment la course va s'installer. Je pense que de toute façon, Visma va pas chercher à contrôler la course, mais connaissant Vingegaard et connaissant les gens de Visma, ils n'aiment pas courir derrière, ils courent devant, parce qu'ils ont peur de tout. Donc, à partir du moment où ils ont peur de tout, ils vont vouloir être devant. Donc, s'ils sont devant, ça va les forcer à rouler pour rester devant. Donc, on peut s'attendre à quelques tentatives d'échappée. Je crois plus à une arrivée massive au pied de Barcelone, à Barcelone, pour qu'on ait un vrai match de puncher.
Jérôme?
Après, il faudra regarder aussi la...
Est-ce que Pogacar n'a pas envie peut-être de rétablir quelque chose?
Alors, rétablir, non.
Il ne va pas chercher, mais si l'occasion se présente.
Si l'occasion se présente, il va y aller. Ça dépendra beaucoup du vent aussi. Ouais. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais si le vent se lève, ça sera vent de face dans la montée de Montjuïc. Donc, ça change un petit peu la donne. Par contre, ce n'est pas impossible de voir Pogacar attaquer dans l'avant-dernier passage de la bosse, par exemple, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, à 15 kilomètres de l'arrivée à peu près. Là, c'est possible. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il veut? Hier, je disais dans le podcast.
Et les placements vont jouer un grand rôle.
Voilà, le placement.
Dans l'after-tour sur l'application RMC, hein, vous l'écoutez sur la radio digitale.
Hier, je disais, est-ce que finalement la bonne opération, elle n'est pas pour Tadej Pogacar, qui n'a pas pris le maillot jaune, qui n'aura pas le poids de la course à contrôler?
Et le protocole.
Alors, il y a été quand même pour le maillot à poids. Mais alors, est-ce qu'il va vraiment se lancer dans le boulot aujourd'hui, au risque, entre guillemets, si on peut parler de risque, de prendre le maillot jaune et justement le protocole, etc., etc.? Je ne sais pas, mais si une occasion se présente, il va pas la manquer.
168 km entre Tarragone, vous l'avez dit, le long du littoral jusqu'à Barcelone. Ça part à 13h55, intégral tour dès 13h sur RMC et sur votre application RMC, également la radio digitale RMC 100% route, pour écouter notamment l'after tour après l'étape. 4 difficultés, je le disais, 3 ascensions donc de la côte du château de Montjuïc, c'est 1,6 km à 9,3% de pente moyenne. C'est pas la même ascension d'ailleurs qu'hier, c'est une ascension encore un peu plus compliquée.
Ça va être violent.
Et
surtout quand on se remémore ce qu'on a vu hier avec certains coureurs qui étaient victimes de crampes sur une toute petite montée, et pourtant des très bons et des très grands coureurs. Je pense qu'il va y avoir de la tension sur le final de l'étape, et va surtout y avoir aussi une grande guerre de placement.
Plus de 30 degrés aujourd'hui sur la route du Tour. Vingegaard envoie-t-il un vrai message à Pogacar? Résultat du sondage, vous dites non à 74%. Ça n'a pas bougé, les amis, ce qui veut dire
74%, 74% Haute-Savoie.
Oh là là,
c'est pas mal.